Radio Campus.
Sélection du disque jockey dans 34 secondes.
Le tempo doit être beaucoup plus rapide, comme ça.
Bonjour à tous et bienvenue au festival Made by Woman en direct et en public depuis le ponton. Est-ce qu'on peut entendre le public? On vous avait dit, il est là pour de vrai. Bonjour, nous sommes les Clitoriciennes, magazine féministe sur Radio Campus 88.3. Et nous sommes ravis de faire notre rentrée ici pour notre 5e saison. Merci à Emmanuel pour l'invitation et à Radio Campus pour la technique. Les clitoriciennes du jour qui m'accompagnent sont Agapante, je le fais dans l'ordre.
Bonjour.
Kaki.
Bonjour.
Glitch.
Hello.
Et moi, Bikini Kill. Mais avant de parler de rentrée, des nouveautés de septembre, tout ça, blablabla, on va commencer par ouvrir notre courrier de l'été et lire les cartes postales qu'on a concoctées spécialement pour vous. Alors voici peut-être l'instant de la nostalgie de l'été, du sable et tout ça, de la trêve estivale. Je vous laisse juge. On commence donc par découvrir quelques brèves d'été par nos chroniqueuses clitoriciennes. Et on commence par toi, Kaki. D'où vient ta carte postale?
Alors moi, j'ai commencé mes vacances, non pas par mon mariage, mais celui de mon cousin, hein, qui dit soleil, dit vacances, qui dit vacances, dit amour, qui dit amour, dit quelquefois mariage. Et donc, mariage plutôt stylé, sapé, mais détente à la fois, ambiance pieds nus dans la plage des Landes. Jusqu'ici, on est ravis, tout est très romantique, la bonne humeur s'invite à la fête. Mais bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là, parce qu'après, il y a l'expression libre des invités, amis, collègues, qui accompagnent les jeunes mariés dans leur long chemin vers le couple. Et là, le lot de surprises concoctées par l'Assemblée est hors contrôle. C'est ainsi que j'ai assisté, ainsi que la centaine d'invités, dont une trentaine d'enfants, sagement assis devant, à un sketch presque sorti de l'âge de pierre. Je vous le fais rapide, mais on a là le collègue de la mariée qui débarque en chef d'orchestre avec les 5 hommes de l'équipe, des musiciens portant leurs instruments inertes, j'ai dénommé leurs compagnes. Donc en début de concert, le principe c'est que les femmes incarnent les instruments et les maris s'en servent sur une bande-son. On a eu la guitare, donc à chaque fois les femmes miment la guitare et les hommes utilisent le corps de leur femme pour faire l'instrument de musique. Voilà, et donc on a eu la guitare, le violoncelle, puis on monte d'un niveau dans le trash avec l'orgue de barbarie. Les femmes posées à califourchon sur les genoux de leur mari, assis sur le ventre, et les maris qui décident d'emmancher une manivelle dans l'entrejambe de leur femme et tournent. Pour mimer l'orgue de barbarie. On n'est pas dans les années 70, hein, je vous rappelle, on est en 2024. Et ensuite, on a eu le corps de chasse. Là encore, on met dans l'entrejambe des femmes les tubes tuyaux d'aspirateur et les femmes miment le son grâce à des plots de chantier portés à leur bouche. Et le concert se termine en beauté par un petit air de percu. Les femmes en position chien tête en bas, le boule vers le public et les hommes qui les chevauchent et qui entament un air de percu sur leurs fessiers. Voilà. Un bon son d'afrobeat et à ma gauche, la trentaine de gamins, toujours là, assis, en train d'assimiler qu'on peut instrumentaliser les femmes comme on veut, les rires goguenards mélangés aux regards concernés. Donc j'aurais voulu avoir le courage d'interrompre le sketch au nom du respect, mais j'avais trop mal à mon féminisme. Voilà, bisous.
Merci Kaki. Alors mes amis clitoriciennes, je vais vous demander de parler hyper fort visiblement parce qu'on ne nous entend pas, on n'entend rien, on n'entend rien. Donc on va parler bien fort dans le micro. Et ou alors les gens se rapprochent tout simplement. Si vous voulez entendre la seconde carte postale, c'est la carte postale d'Agapante.
Petite carte postale de l'Ouest, de Beaugency à la Normandie en passant par la Bretagne. Spéciale dédicace aux personnes qui ont partagé ces voyages et qui sont là. Pour moi, le féminisme en vacances cet été, c'est refuser qu'un espèce de guide de labyrinthe me donne les énigmes pour enfants, alors qu'il donne les énigmes pour adultes à mon conjoint, et qu'on n'avait pas d'enfants avec nous. C'était remarquer qui sert le vin à monsieur en premier, c'était s'étonner qu'il existe encore des toilettes mixtes dans certains campings. C'était se retenir de ne pas défoncer un groupe de jeunes hommes racontant leurs exploits avec les femmes de manière tellement irrespectueuse qu'on pourrait avoir envie de faire du punching ball avec leurs boules. Mais heureusement pour moi, le féminisme en vacances, c'était aussi battre les mecs à la pétanque, avoir tous les contacts d'assaut de lutte contre les violences faites aux femmes au cinéma de Morlaix. C'était d'entendre mon mec déplorer l'absence des femmes dans le documentaire sur Prévert. C'était d'écouter des femmes DJ géniales. C'était de lire des autrices talentueuses et de faire le plein de good vibes sororales.
Bravo. Ça, c'est positif. Ah là, vous aimez ça, hein, quand c'est positif. Ah oui.
Bah, ça va pas durer.
Ça va pas durer. Glitch.
Oui, alors moi, je voudrais vous peindre un tableau. On est dans la montagne, près d'un lac. C'est super. Et petit resto en famille. Donc, il y a ma mamie, mon papy, mes parents, mon mec. Voilà, c'est cool, on chill. Et il y a deux gars qui se sont dit « Ah tiens, mais les petites étudiantes qui travaillent au resto, on leur demanderait pas quand est-ce qu'elles finissent pour aller boire un verre avec elles ?» Donc moi, en bonne soror, je les regarde très mal. Et donc, eux aussi me regardent très mal, jusqu'à ce qu'ils voient mon décolleté. Et là, j'ai eu le droit à un enthousiaste. « Bonjour, madame !»
Bisous. Alors moi, je termine avec ma carte qui vient de Paris, qui était la capitale des Jeux Olympiques. Je sais pas, vous avez... ça va? Ça vous a pas échappé comme info? Ma carte, elle se compose de glorieux extraits de commentateurs des JO. Alors, on commence par un journaliste sportif anglais qui commente une épreuve de natation ainsi. Et j'ouvre les guillemets. Eh bien, les femmes viennent de finir. Vous savez comment sont les femmes? À traîner, à se maquiller. Fermez les guillemets. On enchaîne avec cette remarque d'un journaliste à une archère sud-coréenne qui lui demande si elle a l'intention de faire de la chirurgie pour, ouvrez les guillemets, cacher sa cicatrice au menton. Ben oui. Et une petite dernière pour clôturer cette carte du sexisme décomplexé. Le commentateur Eric Salio, pendant un match de tennis féminin, qui présente ainsi la joueuse Sarah Zerani, et qui dit d'elle, ouvrez les guillemets, c'est la patronne, elle fait tout. La vaisselle, la cuisine, la serpillière, et on ferme les guillemets. Merci à Simone Média pour cette petite compilation dont je me suis inspirée. Et on a une pensée évidemment bien vénère pour celles et ceux qui ont troublé nos cieux azuréens estivaux en nous rappelant que le patriarcat, caca, il est toujours là, même quand on s'y attend pas. On va passer à quelque chose de plus cool, hein, parce que l'été, ce n'est pas que ça. Heureusement, c'est aussi de belles découvertes, des chouettes moments comme ceux qu'on peut partager pendant ce festival Made by Woman. Et on souhaitait donner la parole à l'une de ses organisatrices pour en savoir un peu plus. C'est Emmanuelle qui est là. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Alors on te voit tout le temps ici, mais qu'est-ce que tu fais
Alors je fais pas mal de choses. C'est pour ça que vous me voyez souvent derrière le bar, parce que je suis une des gérantes de ce lieu qui est très très chouette, en plein centre-ville d'Orléans, sur la Loire. Et on organise des concerts, on organise plein d'actions culturelles, des projections, plein de choses. On fait des bons petits plats, on vend des bons produits et on organise aussi ce festival Made by Women. Et je suis particulièrement sur la partie programmation de toutes ces animations tout l'été et de la programmation de ce festival.
C'est la deuxième édition, c'est ça?
Tout à fait.
Donc là, tu as donné l'accent sur quoi pour cette édition?
Alors, comme sur la première, ça part d'un constat. Moi, je viens plutôt du milieu de la musique, où j'avais déjà constaté qu'il y avait un problème de représentation des femmes sur scène, mais aussi dans les métiers plus techniques, on va dire. Un problème aussi de genre par rapport à, voilà, à certains instruments. On voit des femmes, des fois, sur scène, mais qui ont certains types d'instruments et pas d'autres. On voit assez peu de batteuses, assez peu de bassistes, enfin voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Et puis finalement, quand j'ai ouvert cette guinguette, j'ai appris un nouveau métier, celui de restauratrice, voilà. Et puis je me suis vite rendu compte que dans le milieu de la restauration, dans le milieu de la brassiculture et de la viticulture, on avait le même problème de représentation des femmes. Et donc le but, c'est de se dire, avec toutes les activités qu'on a à la guinguette, on va essayer de faire un festival sur lequel on mettra vraiment en avant les initiatives et les créations féminines. Donc c'est pour ça que ça touche un petit peu à tous les domaines, la musique, la brassiculture, la viticulture et la gastronomie. Et pas que, on a aussi de la déco, tout ça, mais voilà, ça c'est plein de petits plus qu'on a cette année.
Mes amis.
Et pourquoi une programmation 100% féminine alors?
Alors elle n'est pas 100% féminine.
Ah,
par exemple, hier on avait un groupe qui était mixte aussi, parce que c'est vrai que le but c'est quand même de mettre en valeur les créations féminines, mais si j'ai des projets intéressants qui arrivent, qui sont portés par un couple mixte ou un binôme mixte, ça me va aussi, parce que ça met quand même en valeur une femme sur scène. Donc voilà, on mélange quand même pas mal les choses. Après c'est vrai que on a pas mal d'artistes féminines qui sont représentées. Et puis les bières là, qui sont proposées, les vins, c'est vrai que c'est fait par des femmes là, cette année. Donc pourquoi ? Bah, parce que vraiment, on manque de représentation. Donc on a besoin. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être sur cette dynamique-là aussi pendant tout l'été. C'est vrai qu'on met un gros coup de projecteur pendant Made by Women, mais je sais pas, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller feuilleter un petit peu notre programme ou de venir ici, on essaie de mettre beaucoup de femmes sur scène de toute façon tout le long de l'été, et puis ensuite de faire un coup de projecteur là vers la fin de saison.
Et donc le festival Made by Women, c'est vraiment une création typique orléanaise, il n'y en a pas d'autres, ça ne se décline pas ailleurs?
Alors, il existe des festivals hein, comme Les Femmes s'en mêlent, voilà, qui mettent en avant des artistes féminines. J'ai pas pour l'instant entendu parler de projets qui allient gastronomie, brassiculture, viticulture et musique. Je ne crois pas que ça existe ailleurs. Ou alors, sinon, c'est des choses que j'ai pas repérées.
Et donc, tu as eu un public mixte pour cette édition ?
Oui, on a eu un public très, très mixte. Et puis, il s'est passé des choses que moi, j'aime voir. Là, par exemple, on vient de sortir de deux ateliers de dégustation de bière animés par Floriane Jena, qui est une femme qui s'y connaît plutôt bien en bière, qui travaille au DIFU. Et là, c'était très, très mixte. On avait quasiment autant d'hommes que de femmes, donc c'était très chouette. Et puis, devant les concerts, il s'est passé des choses très chouettes. C'est que j'ai vu quand même pas mal de jeunes femmes et puis pas mal aussi de petites filles qui étaient là, qui étaient présentes et qui dansaient. Et ça, c'est chouette parce que l'idée, c'est de se dire, tiens, bah, je vois des femmes sur scène et finalement, bah, je peux y aller aussi. C'est la question de la représentation et puis de se dire, tiens, ça peut susciter des vocations.
Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce qu'il y aura une troisième édition, tu penses ?
Eh bien, on l'espère. Merci à vous, en tout cas, d'être présente.
Merci. Et puis, tu, avant de partir, on voudrait que tu annonces le prochain morceau. Il y avait Maddie Street qui passait vendredi.
Exactement, c'était génial.
C'est clair. Et du coup, on a choisi un petit morceau. Est-ce que tu peux nous présenter Maddie Street ?
Alors, Maddie Street, c'est un artiste qui fait une musique. Alors, c'est difficile à définir. C'est un peu hip-hop, un peu rock, un peu pop. Parce que la question de genre, pour Yael, n'a pas de frontières. Donc, Yael propose vraiment des choses très, très variées, mais toujours avec une grosse énergie. Yael a été vraiment chercher le public de manière très très forte, et Yael a invité également Mimistique à partager la scène, qui est donc une drag queen de la scène orléanaise, ce qui nous a permis aussi d'avoir vraiment une mixité dans le public, parce qu'on a des drags qui ont débarqué dans le public et c'était absolument génial.
Merci, on va écouter Shrek is a lesbian.
Here's a newsflash for you. Whether your parents like it or not, I am
a lesbian.
Smooth Shrek.
Retour au ponton en direct et en public. Qu'est-ce qu'on peut entendre le public ? Merci. Alors, vous l'avez compris, ce festival Made by Women est l'occasion de parler de la place des femmes et des minorités de genre dans le milieu culturel. Mais pour aller plus loin, on a le plaisir d'accueillir Éléonore, qui est la vice-présidente de l'association HF+ Centre Val-de-Loire, avec qui on va évoquer maintenant les journées du matrimoine. Et on va parler aussi d'un dispositif très intéressant de mentorat qui s'appelle les Affranchis IES. Voilà, bonjour à toi, Éléonore.
Bonjour.
Alors donc, tu es vice-présidente de l'association HF. J'ai l'habitude de parler du collectif HF. Co-présidente, pardon, tu as raison. C'est quoi HF ?
HF, c'est des associations qui ont vu le jour dans les années 2010, suite à l'apparition des rapports REN-PRA, qui sont parus en 2006 et 2009. C'est des rapports qui ont été commandés par le ministère de la Culture pour analyser en fait l'accès des hommes et des femmes à des postes à responsabilité dans les arts et la culture. Et du coup, les résultats de ces rapports ont été assez effarants. Et donc, les collectifs HF sont nés dans cette période-là. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi, à responsabilité pour les femmes. Et du coup, nous, notre endroit, en fait, c'est de vraiment sensibiliser les acteurs culturels de la région centre. Donc que ce soit les lieux de spectacle, les collectivités territoriales aussi, pour vraiment qu'ils s'emparent en fait de cette question et que voilà, qu'on leur donne des conseils en fait sur comment gommer ces inégalités quoi.
Vous êtes une grosse équipe sinon à faire tout ça ?
Alors du coup on est un bureau, donc on est deux coprésidentes, deux trésorières, une secrétaire et on a une coordinatrice qui vient d'arriver en mai, qui va nous permettre vraiment d'asseoir les activités qu'on a déjà et de développer aussi les actions au sein du collectif.
On peut déjà mentionner que vous avez un site HF+ Centre Val-de-Loire. Qui est une mine d'or, il y a plein de ressources, plein de liens, qui est très intéressant.
Oui, c'est ça. Nous, vraiment, notre endroit, c'est d'être un lieu ressource à la fois pour les artistes, qui sont souvent assez isolés, aussi pour les structures de diffusion, etc. Mais aussi, on travaille beaucoup avec les institutions. On apporte nos conseils à la région centre, par exemple, aux collectivités territoriales aussi, pour essayer de mettre en place l'éga conditionnalité des aides.
C'est quoi l'éga conditionnalité des aides ?
Alors, c'est un vaste sujet, mais en gros, c'est retravailler les subventions pour qu'elles soient plus paritaires. Donc on va vraiment mettre l'accent sur des programmations paritaires, des choses comme ça. Et les structures qui répondent à ces objectifs, elles vont être, par exemple, plus en mesure de recevoir certaines subventions.
D'accord. C'est soumettre, en fait, les subventions à des conditions de clauses égalitaires.
Exactement.
C'est ça, un petit peu. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur HF ou est-ce qu'on parle directement des journées du patrimoine ? Du matrimoine. Ouah.
Très bien, non ? Allons-y. Les journées du matrimoine, donc ouais. Vous organisez ça, vous, le collectif ?
Exactement. Donc les journées du matrimoine, c'est vraiment organisé dans tous les collectifs HF de France. Il faut savoir qu'il y a vraiment des collectifs dans quasiment toutes les régions de France. Cette année, ça aura lieu les 21 et 22 septembre. Et l'idée, c'est de... Enfin voilà, le matrimoine, c'est vraiment l'héritage culturel issu des femmes créatrices. Et du coup, nous, on souhaite mettre en lumière les femmes du passé et leur redonner vie lors de ces journées-là, donc soit via des concerts, soit dans les musées, des monuments historiques, etc.
Donc des événements dans ces endroits qui portent le nom des femmes de l'histoire, c'est ça ?
C'est ça, ou en tout cas mettre en lumière des femmes artistes qui ont été oubliées par l'histoire.
Et il y en a beaucoup ? Non, je rigole.
Juste un peu.
Laisse mon micro ouvert. Alors là, c'est les aléas du direct, n'est-ce pas ? Moi, je tiens mon micro et je te demande la chose suivante. Qu'y a-t-il de prévu pour les prochaines journées du matrimoine qui se dérouleront le 14-15 septembre ?
21 et 22.
Ok.
C'est encore les vacances.
Faut que tu peux recouper mon micro. 20 et 21 septembre.
Alors nous, du coup, à notre endroit, on n'a pas encore la possibilité de soutenir des projets financièrement, par exemple. Mais on a relayé un appel à projet et donc on va publier un catalogue avec toutes les actions qui sont mises en place dans la région pour ces journées-là. Donc on ne va pas s'arrêter au 21 et 22. En gros, c'est toutes les actions qui auront lieu tout au mois de septembre. Et donc, par exemple, on a retenu 10 actions, par exemple, et il va y avoir, par exemple, le CCNO qui va...
CCNO ?
Donc, Centre chorégraphique national d'Orléans, qui va, proposer, en fait, des performances artistiques lors de ces journées-là. Et donc... mettre en avant des femmes chorégraphes. Donc il y aura par exemple le cri de Nassera Bellazza, le 21 septembre à 16h. Et il y aura aussi un extrait de 27 Perspectives Mobiles de Maud Le Pladec, donc la directrice du CCNO pour le moment, le 22 septembre à 15h et 16h.
Et si on est porteuse de projet, on peut encore répondre à cet appel à projet pour les journées du matrimoine du 20 et 21 septembre ?
Alors, l'appel à projet est fermé, mais en tout cas, on peut toujours s'arranger.
On s'arrange, si jamais... quoi. Okay, donc, appel si vous avez des projets culturels qui pourraient apparaître dans ces journées du matrimoine, faites-le. Il y a une très, très belle affiche qu'on a utilisée, d'ailleurs, sur nos réseaux, où on devine George Sand, qui est habillé en Superwoman. Je vous invite à aller découvrir ce visuel. Moi, je le trouve très chouette. Merci. Alors, on va continuer sur les journées du matrimoine avec les fameux quiz et avec les fameux et avec les fameux clito d'or à gagner.
Ouais.
Alors, c'est un quiz spécial matrimoine. Et écoutez bien les questions. On répond à la volée et après vous venez chercher votre clito d'or.
Exactement. On compte sur celle sans casque pour écouter les réponses du public, n'est-ce pas? Donc.
Glitch, à toi.
Pardon, la première question. Quel est le vrai nom de William Shakespeare?
Attention, c'est un QCM.
C'est un QCM. Willy Junior Shakespeare.
Ça, c'est le A.
Agrippa d'Aubigné.
Le B.
Ou Mary Sidney, comtesse de Pembroke.
Le 3, mais oui, c'est tout à fait. C'est Mary Sidney, comtesse de Pembroke.
On a une gagnante.
Mais oui, tout à fait. Elle a gagné un clito d'or que Glitch va lui donner d'elle à elle. C'est très beau. Alors, pour la petite histoire, je vous invite à lire... en fait, ils s'en fichent, les gens, mais c'est hyper important. Parce que, quand même, dans le patrimoine, puisqu'on parle de... Là, on va parler de littérature. Hein, le fait d'oblitérer la présence des femmes est tout à fait généralisé dans l'histoire littéraire. Mais notamment, je pense que le symbole le plus emblématique, c'est William Shakespeare, dont on suppose aujourd'hui que, en fait, ce serait donc cette fameuse Mary Sidney, qui était une femme très cultivée, une brillante écrivaine du XVIe siècle, très érudite, influente à la cour d'Angleterre et qui connaissait très bien la vie politique de l'Europe en son temps. Je vois qu'on acquiesce dans le public. Et donc, il y a un livre que je vous invite à lire, d'Aurore Evin, qui s'intitule « Mary Sidney alias Shakespeare pour faire tomber ce mythe shakespearien ». Voilà. C'était notre première question. Moi, je vais vous faire la deuxième question. Qui est Judith Gauthier ? Une élève de terminale du lycée de Centreville ? La fille de Théophile Gauthier ? La première femme à entrer à l'Académie Goncourt ?
Là, on a une réponse.
La 3, mais oui, vous pouvez venir chercher votre petit clito d'or. On l'applaudit bien fort. Et en fait, vous auriez gagné si vous aviez dit aussi la 2. Parce que figurez-vous que vous connaissez tous Théophile Gauthier. Ah oui, Théophile Gauthier, capitaine Fracas, gna gna gna. Et bien en fait, il avait une fille. Et figurez-vous que sa fille, Judith Gauthier, c'est une écrivaine, une poétesse, une traductrice, une dramaturge, une chanteuse, qui est l'autrice d'environ une soixantaine d'œuvres. C'est pour vous dire que c'est quand même énorme. C'est la première femme à entrer à l'Académie Goncourt. Elle a pris la place, ça c'est l'instant culture, prenez, prenez, c'est gratuit. Elle a pris la place de Jules Renard, poil de carotte si ça vous dit un truc. Elle a pris la place de Jules Renard à sa mort. Et Jules Renard, avant sa mort, il parlait d'elle en le disant, donc on parle bien de Judith Gauthier, « C'est une vieille outre noire, mauvaise et fielleuse, couronnée de roses comme une vache de concours. » Voilà, tout ça, hein, on sent ici la vieille rancœur. Et il faut savoir aussi que c'est Judith Gauthier, en 1910, qui est devenue chevalière de la Légion d'honneur. Le saviez-vous ? En fait, on a quelqu'un ici de très, très connu qui a marqué l'histoire littéraire, dont on a complètement oublié la trace. Elle est perdue. Mais vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Elle existe bel et bien. Je vous dis ça. Si vous voulez connaître d'autres, découvrir d'autres femmes comme ça, vous allez sur le collectif donc HF Centre-Val de Loire et qui vous envoie sur des liens et auxquels vous pouvez découvrir donc les femmes oubliées. On continue et là on va faire du local. Ok, Orléans, t'es prêt ? Tu es là, tu es dans la place et maintenant on fait du local. C'est ta question agapante.
Alors, ce n'est pas un QCM, c'est pas facile. Au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Est-ce que vous pouvez nous donner une peintre, un nom d'une peintre ? Ah ! Bravo, 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 bravo.
Elle a gagné son clito d'or ! Alors, moi, je n'ai pas du tout entendu la réponse. C'était quoi la réponse ?
Tamara de Lempicka.
Merde, je suis obligée de le répéter.
Tamara de Lempicka.
Ah oui, d'accord, très bien. Donc, c'est une réponse qui a été apportée. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Non, personne. Eh ben, on vous engage à profiter de la gratuité des musées d'Orléans quelques fois par un dimanche par mois, je crois, un truc comme ça. Mmh. Allez-y et puis après, vous pouvez nous envoyer vos réponses sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Instagram et notre compte Facebook, les clitoriciennes. Voilà, et on vous donnera d'autres clitos d'or si vous voulez. Oui. On continue avec... c'est Kaki ?
Ouais, c'est moi. Alors, toujours pour les Orléanais et les Orléanaises, moi, je suis allée regarder les listes des noms de rues. Non, mais pas des avenues, ni des boulevards, ni des places publiques, que les noms de rues d'Orléans. J'ai trouvé 869 rues à Orléans et seulement 18 portent le nom de femme. Eh oui, seulement 18. Voilà, c'est quand même pas beaucoup, hein. Vous pouvez aussi...
dire ouh.
Oui, voilà, vous pouvez réagir à ça, quoi. 18 femmes sur 860. Alors, bien sûr, il y a la rue de la chèvre qui danse, ou la rue des champignons, quoi. Mais en fait, il n'y a que 18 noms de rues de femmes célèbres. Donc, 18 femmes. En tout et pour tout, il y a une dizaine d'artistes, dont deux autrices, une religieuse, trois personnes que j'arrive toujours pas à identifier. J'ai pas réussi à trouver qui c'était. Et Jeanne d'Arc, évidemment. Déterminée plusieurs fois par son statut sexuel aussi, hein, la pucelle d'Orléans, il y a le nom de sa mère, etc. Voilà, Jeanne d'Arc, elle est là, elle est présente. Bon, bref, et si vous avez la chance d'habiter dans une rue qui porte le nom d'une femme, peut-être aurez-vous fait cette recherche. Qui est Louise Bonne ? C'est une rue dans le quartier du Nécotin. Alors, est-ce que c'est, réponse 1, la femme de chambre de Molière ? Réponse 2, une des muses de Pablo Picasso. Ou réponse 3, un fruit.
On a un 2, on a des 2,
non,
on a des 2 qui se
ça.
Lèvent.
C'est
oh, mais
ça.
Vous avez
non,
perdu, vous rigolez
oui, bah oui, oui, là-bas, j'ai vu le 3.
Mais oui, voilà. Elles ont gagné le clito d'or.
Et oui, parce que figurez-vous que Louise Bonne, c'est un fruit, c'est une variété de poire. Voilà, et en fait, c'est son découvreur, Jean de Vivonne, qui a dédié le nom de cette poire à sa femme, parce que je pense qu'il aimait bien la croquer, un truc comme ça, je pense, j'imagine en tout cas.
J'en perds mon micro.
Tu peux venir chercher ton clito d'or si tu veux. Donc voilà, c'est une poire, bel hommage, hein, merci. Et question suivante, je me permets d'enchaîner. Entre les rues de l'Argonne et les rues des Hautes Maisons se trouve la rue Raymond de Glaume. Alors, où auriez-vous pu croiser Raymond de Glaume, à votre avis ? Est-ce que... tenez, c'est, voilà, c'est celui-là.
Il vient prendre son clito d'or.
C'est pas toi qui as répondu, par contre, excusez-moi. Voilà,
ouais.
D'accord.
Ouais, mais
okay.
Par contre,
tu les donnes, okay ?
Ouais, par contre, on te surveille, ok ?
Alors, Raymond de Glaume, on peut la trouver où ? Est-ce qu'on peut la trouver au théâtre parce que c'est une performeuse ? Réponse 1. Est-ce qu'on peut la trouver dans un roman de Zola parce que c'est une héroïne si courageuse ? Ou réponse 3, on aurait pu la trouver dans le bureau P6 des services communs à la santé au travail sous la direction du personnel. Oui, c'est la réponse 3, bravo. J'ai plus de clito, moi, à donner.
Mais il est là, le dernier clito.
Ah, il est là, voilà, le dernier clito est là.
Je sais pas qui
vient aller
chercher.
Il
y a égalité, moi, je vous battez pas, prenez ses petites pattes, ou je sais pas, débrouillez-vous, quoi.
Et oui, donc on en est là. Hein, je continue pendant que vous venez chercher votre clito. Allez-y, hein, faites Shifumi en trois manches gagnantes, si vous voulez. Bravo. Voilà, on en est là. Alors pourquoi est-ce qu'on a une rue Raymond Glaume? Pourquoi on a une rue au nom de cette personne qui s'occupe du bureau P6, des services communs à la santé au travail? Bon, bah, j'ai rien contre les fonctionnaires des services publics, hein, au contraire, mais pourquoi? Pourquoi celle-ci? Est-ce qu'elle aurait eu un rôle secret dans la résistance? Peut-être, on ne sait pas. Et on ne sait pas, et même les internets, je sais, ça fait un peu boumeuse, hein, de dire les internets, mais... Ça fait un peu... Mais même Google ne sait pas non plus. Donc ceci est un appel. Si vous connaissez la vie cachée de Raymond Glaume, n'hésitez pas. Et j'en profite pour... maintenant que j'ai la parole, j'en profite pour la garder un tout petit peu. Donc voilà, bah moi je me suis demandé, parce que aussi on a des filles, toutes on a des filles, et on est des femmes aussi. Je me suis demandé où sont les femmes en lutte, où sont celles qui ont marqué l'histoire, les Louise Michel, les Olympe de Gouges, les Simone en tout genre. Est-ce qu'on ne doit rien à Dulcie September, militante de l'ANC contre l'apartheid, assassinée dans des conditions obscures en France alors qu'elle était réfugiée, invitée par l'État français qui n'a pas su la protéger? Où sont les inventrices, où sont les exploratrices, les voyageuses, les scientifiques? Où sont les chercheuses qui ont changé le monde grâce à leurs inventions? Ne pourrait-on pas avoir une rue Marie Curie sans Pierre, s'il vous plaît, qui a bien profité de ces trouvailles? Où sont les sportives, les femmes politiques, les militantes pour la paix? Où sont ces grandes femmes du monde qui inspirent la force et l'espoir aux jeunes filles de demain? Pourquoi est-ce qu'on ne leur rend pas hommage jusqu'au dans les fondations de la société? Je me suis demandé, mais qui décide des noms de rues dans une ville, du coup? Et bien sûr, la même réponse, toujours, ben oui, parce que seulement un cinquième des maires de France sont des femmes. Pourquoi on ne rend pas les hommages à la jeunesse noire, ultramarine ou maghrébine, ces héroïnes qui se sont soulevées et qui se soulèvent toujours, celles qui font de la France ce qu'elle est aujourd'hui? Parce que invisibiliser les femmes dans l'espace public, ça suffit. À l'heure où le Haut Commissariat pour l'égalité nous rappelle que presque 100% des jeunes filles de 18 à 25 ans sont témoins ou victimes de harcèlement de rue, on veut des rues Macha Amini, on veut des théâtres Rebecca Chaillon, on veut des places Gisèle Halimi, on veut des rues Edith Garud, on veut des squares Nzinga, on veut des édifices Nazik Alabid. Et alors peut-être que par ricochet, leur lutte en mémoire, on pourra espérer pouvoir occuper un jour l'espace public tranquillement, sans le craindre ni le subir, nous les femmes. Ainsi protégés par les fantômes et les forces de nos sœurs et les grandes de ce monde, on pourra enfin dire à nos filles, courez, volez, chantez dans la rue, elle vous appartient à vous aussi. Voilà. Ouais. Yes. C'est bon, j'ai fini.
Retour sur le plateau, merci, c'était beau et on est complètement d'accord avec toi, la rue est à nous. On retrouve Éléonore, vice-présidente du collectif NAN de l'association HF+, région Centre-Val-de-Loire. Et on voulait parler d'un deuxième dispositif que vous mettez en œuvre, qui est un dispositif de mentorat et qui s'appelle Affranchi-ES. Tu peux nous en parler ?
Oui, le programme de mentorat Affranchi, il existe depuis 2 ans. Là, on va lancer la 3e édition. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'accompagner en fait des binômes de femmes qui font partie du milieu de la culture. On publie un appel à candidature. Là, on l'a fait en avril. Et en fait, les professionnels de la culture peuvent y répondre, soit en tant que mentor, soit en tant que mentoré. Donc, en fait, les mentors, c'est plutôt des profils de femmes qui ont une certaine expérience dans ce milieu-là. Et les mentorés, c'est des profils plutôt... plutôt jeunes ou plutôt isolés, qui cherchent à développer leur réseau et à avoir des conseils en fait de la part de femmes qui ont pu rencontrer en fait les mêmes problèmes qu'elles à leur âge ou en tout cas aux mêmes périodes de leur carrière. Donc cette année, on va suivre 8 binômes, 4 en spectacle vivant, 2 en musique actuelle, 1 en art visuel et 1 en audiovisuel. Ça va durer toute la saison 24-25 et tous les mois en fait elles vont avoir des temps soit collectifs soit individuels pour échanger, pour se former, pour vraiment développer leur réseau et dépasser les difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie professionnelle.
Vous avez déjà sélectionné
Vous avez déjà sélectionné des personnes ?
Ouais, c'est ça. En gros, entre avril et juillet, il y a eu un travail de recrutement où on a vraiment créé les binômes en faisant se rencontrer les personnes pour être sûr que la mentor et la mentorée étaient vraiment bien...
Enfin, ça crée un bon match.
Voilà, ça crée un bon match, exactement. Donc pour cette année, c'est terminé, mais en tout cas pour la saison 25-26, l'appel à candidature sera sûrement en mars-avril 2025. Donc voilà.
D'accord. Ça s'appelle Les Affranchis. On peut retrouver des informations peut-être sur votre site.
Oui, et sur le site Métier Culture aussi.
Tout à fait. On va se quitter, Léonore, mais non, pas du tout. On va pas du
non,
tout
mais
se quitter
enfin,
tout de suite.
J'ai juste une petite question, en fait, parce que je me dis, si c'est une asso, c'est que vous cherchez des bénévoles. Vous êtes suffisamment nombreuses. Où est-ce qu'on vous trouve, etc.
Alors, on est toujours en recherche de membres. Effectivement, en fait, l'idée, c'est pas que l'association soit seulement gérée par la personne salariée. On est vraiment très intéressé par l'engagement bénévole. Donc on est quand même un bureau voilà, c'est assez conséquent, mais on a vraiment des membres actifs qui font partie du CA et qui mènent des actions sans forcément être trésorière ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous voulez vous engager au sein de l'association, n'hésitez pas à aller sur notre site et nous envoyer un mail.
Donc votre site, tu peux le rappeler
C'est hfcentrevaldeloire.com.
.fr. D'accord, très bien. Très bien.
On va se quitter, Léonore. J'ai déjà vécu cette scène. On va bientôt se quitter, mais pas avant que tu nous parles de ton choix musical pour ce soir.
Oui, j'ai choisi Feminine Urge de The Last Dinner Party. C'est bon, le choix était assez naturel. C'est un peu mon tube de l'été. Je l'ai écouté tout l'été et ça m'a fait beaucoup de bien de voir 5 femmes sur scène comme sous une forme de tornade. C'était assez génial. Et du coup, ça me permet de faire un petit écho aussi sur justement l'invisibilisation des femmes. Dans les programmations de festivals de musique, il y a eu un rapport du CNM, donc le Centre National de la Musique, en 2019, et il y a eu comme résultat qu'il y avait seulement 14% de femmes qui étaient programmées en festivals de musique actuels. Donc voilà.
C'est pas beaucoup, 14%.
Ça n'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup du tout.
Donc à prendre avec des pincettes, parce que du coup c'était en 2019, donc il y a oui. sûrement eu
une grande amélioration.
C'est mieux maintenant, ouais. En effet.
Merci, allez, on écoute ça. Retour sur le ponton avec les clitoriciennes sur Radio Campus 88.3 pour cette première émission de rentrée. Et nous passons à nos célèbres plans cul de notre été. Alors, quel est ton plan cul, Kaki ?
Alors, c'est moi, micro rouge. Merci, Vivi. Donc, moi, mon plan cul, en fait, c'est le bouquin de ma collègue. Je la dénonce comme ça, directement. Elle s'appelle Lisa Serrero. Elle-même, elle a été victime de violences dans l'espace public. Et en fait, elle a décidé d'écrire un bouquin qui est plutôt une espèce de petit guide pratique à destination de l'entourage des personnes qui sont victimes de violences sexuelles partout en fait. Et donc elle donne un peu des conseils, quels sont nos pouvoirs nous en tant que proches, pouvoir d'écouter, pouvoir de déculpabiliser, pouvoir de s'adapter, pouvoir de reconstruire aussi. En fait elle est tombée dans l'écueil d'avoir personne à côté d'elle, perdu ses amis parce qu'ils ne savaient pas comment réagir, etc. Et du coup, quand même, une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles et seulement 10% déposent plainte. Donc, les proches ont un pouvoir et franchement, à mon avis, tout le monde devrait lire ce petit livre pour savoir comment réagir, comment accompagner ces personnes dans la reconstruction.
Donc,
Nos survivantes, ça, Lisa Serrero.
Lisa Serrero, Nos survivantes, est édité chez Le Duc Société. Voilà. Merci beaucoup, Kaki. On passe à Glitch.
Moi aussi, je vais vous recommander un livre, mais moi, je suis plutôt sur un roman. Cet été, j'ai lu un roman qui s'appelle « L'heure des femmes » d'Adèle Bréau. Et en fait, Adèle Bréau, c'est la petite fille d'une femme qui faisait de la radio sur RTL dans les années de 67 à 82.
Génération 72, 70, si tu es là.
Et qui s'appelait Ménie Grégoire. Et donc, qui était une femme qui avait une émission qui s'appelait « Allô Ménie » et où les femmes lui envoyaient des lettres au début et l'appelaient ensuite pour leur confier toutes les vicissitudes du quotidien, à savoir les violences sexistes et sexuelles, les problèmes d'inceste, etc. Et donc ce roman, il raconte à la fois l'histoire de cette émission de radio qui a été créée, mais aussi d'une journaliste en 2021 qui se dit « Mais en fait, moi, je suis post-MeToo, mais ça a déjà été fait, donc qu'est-ce qui avance ?» Et donc il y a toutes ces questions-là, et c'est très intéressant de voir ce côté un peu biographie de cette animatrice de radio qui a essayé de faire avancer les choses à son époque. Voilà.
Merci à toi, Agapante.
Non.
Oui. Non, c'est merci à toi, virgule, Agapante, de l'importance de la virgule.
Alors, moi, c'est un film. Je suis allée voir Emilia Pérez. Donc, un film de Jacques Audiard avec Zoé Saldana, Carla Safiane-Gascón et Selena Gomez qui est sorti le 21 août. On plonge dans le Mexique qui souffre, le Mexique ravagé par la violence et la corruption. Dans cette tempête, deux âmes décident de lier leur destin. Une avocate et un chef de cartel qui veut enfin devenir la personne qu'il est à l'intérieur depuis toujours, une femme. Vous savez, quand on se pose cette question, tu ferais quoi, toi, si t'avais une baguette magique et un budget illimité ? Bah lui, il a la baguette magique et le budget illimité. Et lui, il choisit ça, être une femme, être enfin elle-même. Aussi, pour devenir meilleure, c'est sa chance de rédemption. Audiard réussit à nouveau un film de genre, une comédie musicale endiablée avec un casting parfait et une BO d'enfer signée Camille. Un film qui respecte son sujet et qui offre de vrais personnages féminins complexes et bouleversants. J'ai ri, j'ai dansé, bon dans mon fauteuil, mais j'ai chanté, j'ai pleuré, bref, j'ai adoré. Allez-y.
Évidemment, on va voir tout ça au cinéma des Carmes. Moi, je vais terminer cette tournée de plan cul avec un documentaire à ne pas manquer, Sans rendez-vous au planning familial, tournée au planning familial 45, qui est disponible sur la plateforme France TV. Donc, on va croiser dans ce court documentaire des usagers et des usagères de l'association. Certaines qui demandent un accompagnement pour un avortement, d'autres qui cherchent des aides pour des prises d'hormones, du soutien suite à une agression sexuelle. Toutes ces personnes de différents milieux sociaux différents sont en situation d'urgence et de fragilité. On va mesurer l'ampleur des tabous, et notamment celui sur la contraception masculine, par exemple, mais aussi et surtout dédicace à l'énorme, vraiment dédicace à l'énorme travail accompli par l'ensemble de l'équipe du planning familial. C'est un documentaire, vraiment, regardez-le, moi, il m'a mis les poils, il est touchant. Et il nous rappelle combien les plannings familiaux sont d'utilité publique en France. Et pour rappel, le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. On n'oublie pas, on est là, d'accord, et on sera là, toujours. Ça applaudit faiblement sur un truc comme ça, quand même. Restez sur nos réseaux si vous voulez savoir ce qui se passe à Orléans pour cette date-là. Les clitoriciennes, on arrive presque à la fin de cette émission. C'est notre nouvelle saison, notre cinquième. On sera là encore en studio, de droite, de gauche. Si vous allez sur nos réseaux sociaux et notamment sur l'Instagram, surtout à gauche, ouais. Sur Radio Campus, vous pouvez retrouver tous nos podcasts. Et sur les Instagram, les liens sur les différentes émissions. On a eu des belles émissions l'année dernière avec Victoire Toyon, par exemple, hein, qui est celle qui a lancé les couilles sur la table. Avec qui j'ai deux témoins. Ah oui, avec Mao Drama, quand même. Qui est, voilà, tout ça, il faut absolument le réécouter. C'est vraiment chouette. On va se retrouver. Moi, je vous propose de nous retrouver à la 15e édition du Festival d'un bord à l'autre, qui est un festival de films LGBT+, du 26 au 30 septembre 2024. Et c'est organisé par l'association Cinemundi au cinéma des Carmes. Les filles, on retrouve où encore les clitoriciennes ?
Eh bien, le 28 septembre, au 108 rue de Bourgogne, Colombet et Hortense, donc c'est un concert avec live DJ set organisé par 45 Tours de Poitrine. Et puis, encore dans les concerts, il y a évidemment le festival Hop Hop Hop, donc le 13 et 14 septembre. Et il y a plusieurs femmes qui sont programmées dans ce festival, notamment Augusta, le 13 septembre, à 19h30, à la salle de l'Institut.
Ok. Et je vais laisser Vivi qui a fait la technique aujourd'hui. Et merci à
merci.
Elle.
Merci.
Bravo, Vivi. Comme d'habitude, elle est toujours là. Et elle va mixer ensuite. Et je voudrais qu'elle nous parle un peu de ce qui va se passer à Radio Campus, car ce n'est pas une année tout à fait ordinaire à Radio Campus.
Eh bien non, ce n'est pas ordinaire. Ce sont les 30 ans de Radio Campus cette année. On a déjà commencé à fêter tout ça au mois de juin et on continue au mois de septembre, le 27 septembre, au 108 Maison Bourgogne pour un apéro audio spécial avec des concerts. Et puis, on se retrouve également les 29 et 30 novembre. Le 27 novembre, ce sera au 108 et le 30 novembre, pour le final, à l'Astrolab. Écoutez Radio Campus 88.3 FM pour en savoir davantage. On vous prépare tout un tas de surprises également sur nos ondes.
Merci Vivi, nous on se retrouve les clitoriciennes, suivez-nous sur nos réseaux pour savoir, mais sinon notre émission c'est le dimanche, un dimanche en dimanche, voilà, de 19 à 20h, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment, et puis on vous rappelle que les journées du matrimoine auront lieu le 20 et 21 septembre et que c'est coordonné, porté par l'association HF que nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui, voilà, avec Éléonore, vice-présidente. Merci à tout le monde, merci au ponton, merci à Emmanuel pour l'accueil.
Merci
C'était
ponton.
Très chouette et voilà. Et puis ciao.
Merci le ponton, merci le public.
Bien joué. Voilà. We'll be right back.
saloga.
Homies do too. Don't even bring a strap to this. King T, I make you clap to this. Yeah.